Laudetur Jesus Christus.
Les États-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine. Les réactions se multiplient, surtout en Europe, où les gouvernements et la Commission sont bien décidés à parer à cette défection. Les évêques de l'Union européenne, dans un message fort, saluent l'engagement des États membres en faveur de l'Ukraine et renouvellent leur soutien aux Ukrainiens. Manque de moyens politiques migratoires, que s'est-il passé exactement en Manche en novembre 2021 quand 27 migrants sont morts noyés en tentant de rejoindre le Royaume-Uni? Londres ouvre une enquête après celle de la France. À l'occasion du carême, les évêques haïtiens appellent à l'espérance et les habitants à faire un examen de conscience alors que leur pays est sous la coupe de gangs armés. Nous entendrons l'évêque de Jérémie. Et puis au Pérou, ouverture du procès de l'ancien président Pedro Castillo. Il est jugé pour rébellion après son auto-coup d'État raté. C'était en novembre 2022.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, le pape a dormi toute la nuit, il se repose maintenant. Communication ce matin de la salle de presse du Saint-Siège après que François a souffert de deux crises respiratoires aiguës hier. Le pronostic demeure réservé, le tableau clinique du Saint-Père étant toujours complexe. Ce matin, le Saint-Père a poursuivi son traitement et sa physiothérapie respiratoire, notamment via une ventilation à haut débit par des canules nasales. Ce soir, la prière du chapelet sera guidée place Saint-Pierre par le cardinal Roche, le préfet du dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements. La salle de presse informe également que les exercices spirituels de carême de la curie romaine se dérouleront comme prévu du 9 au 14 mars prochain aux communions spirituelles avec le Saint-Père. Le thème général des méditations menées par le père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale, et l'espérance de la vie éternelle. Dans l'actualité internationale, cette prise de position des évêques de l'Union européenne sur la guerre en Ukraine, dans un message publié par la COMECE, la conférence des épiscopats de l'UE, ils encouragent l'Union et chacun des États membres à poursuivre leur soutien à Kiev. Ils saluent ainsi les différentes mesures prises en faveur des Ukrainiens agressés sur leur territoire par la Russie. Jean-Benoît Rel.
Un soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple face à l'invasion massive et injustifiable de la Russie. Voilà ce que demandent les évêques de l'Union européenne, alors que les États-Unis suspendent leur aide et que les Européens doivent se mettre d'accord jeudi prochain quant à leur futur soutien à l'Ukraine. D'abord, les évêques incitent l'Union européenne et ses États membres à poursuivre leur soutien financier à ce pays de l'Europe de l'Est afin de rester fidèles à la vocation de la communauté européenne de promesse de paix et d'ancrage de la stabilité. Deuxième mesure prônée par la COMECE, faire avancer le processus d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine de manière, je cite, « opportune et équitable », une décision que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, espère voir avant 2030. Enfin, les évêques estiment que seule la négociation pourra obtenir une paix globale juste et durable à laquelle sera nécessairement impliquée l'Ukraine victime de l'agression. Ce dialogue sera soutenu, espèrent les évêques, par une solidarité transatlantique et mondiale forte. Ainsi, Xavier, pour la COMECE, toutes ces mesures permettront une issue favorable pour l'Ukraine, mais cette issue sera surtout décisive pour le sort de l'ensemble du continent européen et d'un monde libre et démocratique.
Jean-Benoît Rel. Dans ce conflit, quel sera le poids de la décision prise hier soir par Donald Trump de suspendre l'aide américaine à l'Ukraine? La Russie applaudit dès demain, considérant que c'est la meilleure contribution possible en faveur de la paix. Le gouvernement ukrainien a réagi également. L'Ukraine est absolument déterminée à poursuivre sa coopération avec les États-Unis, a affirmé tout à l'heure son premier ministre, pour qui le partenariat avec Washington est important et est à préserver. Les Européens, eux, font grise mine. Les propositions se sont multipliées. Ce matin, l'Estonie appelle l'Europe à combler le vide laissé par les États-Unis. La Pologne, qui considère que cette suspension place l'Ukraine dans une situation très grave, regrette qu'elle n'ait pas été communiquée à l'OTAN. La Finlande propose, elle, une intégration automatique de Kiev à l'Alliance Atlantique en cas de rupture par la Russie d'un éventuel cessez-le-feu. La Commission aussi s'active. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce matin un vaste plan intitulé « Réarmer l'Europe » pour fournir très vite une aide militaire à l'Ukraine. 800 milliards d'euros sont mis sur la table en dépenses d'armement. Première étape, une tranche de 150 milliards mise à disposition des 27 pour financer le renforcement des capacités de défense en Europe. Restons en Europe pour parler des migrants. Le Royaume-Uni a ouvert une enquête judiciaire indépendante sur le naufrage le plus meurtrier de de ces dernières années dans la Manche. C'était le 24 novembre 2021. 27 personnes étaient mortes, 4 portées disparues. Cette tragédie aurait pu être évitée, selon l'avocate des familles des victimes. En cause, le manque de coordination entre les gardes-côtes français et les services britanniques de secours en mer, ces derniers manquant de moyens adaptés à leur mission. À Londres, Jean Jaffray.
Sir Ross Cranstoune, qui préside la commission d'enquête, s'est fixé comme mission de faire la lumière, je le cite, sur cette terrible tragédie et d'en tirer les leçons. Selon l'enquête, les passagers clandestins avaient embarqué sur un pneumatique près de Dunkerque vers 22 heures. À 1h30, le service des gardes-côtes britanniques a reçu un premier appel. Un adolescent kurde irakien a déclaré à l'opérateur que leur embarcation prenait l'eau. Une heure après, il les aurait à nouveau contactés pour s'entendre dire qu'ils devaient arrêter d'appeler et que les secours allaient arriver. C'est à ce moment qu'un bateau de pêche français a aperçu des corps flottant à la surface. D'après l'un des deux survivants, Issa Mohamed Omar, au lever du jour, il y avait 15 passagers qui se tenaient encore aux pneumatiques. Un bateau, The Valiant, est bien parti à leur recherche, mais leur embarcation a été confondue avec une autre. L'incident a été consigné, résolu et clos sur la main courante. D'après l'enquête, la majorité des bateaux à la disposition de la police des frontières n'étaient pas adaptés à la recherche et au sauvetage de naufragés et elles ne disposaient pas d'un avion de reconnaissance. Cependant, la priorité du gouvernement conservateur était « Stop the boat » à l'approche des élections. Il y avait même été envisagé de faire appel à la marine royale pour repousser les bateaux de migrants vers les eaux territoriales françaises. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Le cessez-le-feu de plus en plus à risque dans la bande de Gaza. Israël continue de mettre la pression sur le Hamas, affirmant que l'aide humanitaire était devenue la première recette budgétaire du mouvement palestinien. Le gouvernement israélien veut également que Gaza soit totalement démilitarisé, une ligne rouge pour le Hamas. C'est demain le début du carême. À cette occasion, les évêques d'Haïti appellent à l'espérance. Malgré le contexte de violence que connaît le pays, il dénonce la barbarie des gangs, mais aussi les nombreux soutiens ou complicités dont ces bandes armées disposent. Monseigneur Gontran Descôtes, évêque de Jérémie, demande ainsi à chaque Haïtien d'effectuer un examen de sa conscience et de réfléchir à quand il n'a pas été un artisan de paix.
Il faut, durant ce temps de carême, cet examen de conscience de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne, selon sa responsabilité au sein de la société haïtienne, et pour qu'il y ait vraiment un vrai réveil humain, moral, spirituel, pour que nous puissions nous ressaisir comme peuple, comme Église, même si nous nous trouvons devant une situation où nous nous sentons impuissants, parce que les gangs, les bandits sont lourdement armés et les munitions arrivent avec une facilité qui nous déconcerte. Et il faut vraiment cet examen de conscience. Il faut, comme disait Saint Jean-Paul II, quand il a visité Haïti le 9 mars 1983, il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change maintenant. Il avait dit maintenant, ici. Maintenant, en Haïti, je suis sûr que dans cette année jubilaire et que l'espérance va refleurir et dans notre pays. La lumière va briller de nouveau et va triompher des forces de ténèbres qui envahissent le pays.
Monsieur Gontran Descôtes, évêque de Jérémie en Haïti. On reste en Amérique, au Pérou, où s'ouvre aujourd'hui le procès de l'ancien président Pedro Castillo. Il est jugé pour rébellion, abus d'autorité et trouble grave à l'ordre public après son auto-coup d'État raté en décembre 2022. Il risque jusqu'à 34 ans de prison. Martin Chabal.
C'est l'un des procès les plus importants de l'histoire du Pérou pour un ancien chef d'État. Les juges devront déterminer si Pedro Castillo et d'autres membres du gouvernement de l'époque ont bel et bien tenté de prendre le pouvoir par un coup d'État en décembre 2022. Il avait tenté de contrer la destitution votée par le Parlement par une dissolution du Congrès, mais il n'avait pas été suivi par l'armée et il avait été arrêté quelques heures plus tard. La justice s'appuiera sur de longues enquêtes menées depuis que Castillo est enfermé de manière préventive à la prison de Barbadillo, connue comme étant la prison présidentielle des Péruviens. 4 présidents y ont été enfermés depuis 2007. Mais pour Castillo, la condamnation semble très probable, notamment pour les actes de rébellion. Depuis son arrestation, une trentaine d'avocats ont tenté d'inverser la tendance du procès, mais rien n'a abouti. L'ancien président, lui, de son côté, accuse le Congrès de coup d'État et plaide pour une destitution anticonstitutionnelle. Une défense qu'il espère convaincante, car Pedro Castillo et son parti envisagent de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Lima.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.